Canal FM.
Canal FM.
Il est 11h.
Retrouvez 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Bonjour, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide quoi.
On attend et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement,
moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes le mardi 17 octobre 2023, il sont 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour communier avec nous par le Club La Presse sur les antennes de Canal FM à Lomé, ici ses environs, mais également les radios partenaires. Et ainsi, nous tissons une toile d'araignée de par le Togo et même dans le monde entier. Radio Lumière à Aneha, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan, mais également par le monde entier, Radio Le Bénin, Ebene Radio, les applications Canal FM et même la chaîne YouTube. Vous pouvez nous écouter, mais également nous regarder. Le sage nous dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en demeurant ce que nous sommes. Encore une fois, nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être si nous demeurons ce que nous sommes. Au Club de la Presse aujourd'hui, vous attendez, c'est mardi, nous allons parler de la culture et des arts, mais nous allons également faire la connaissance d'un mouvement de bienfaisance, un mouvement humanitaire international qui tient sa conférence de district de chez nous ici à Lomé, et puis deux petits articles très intéressants, des faits de proximité dont nous parle l'agence Savoir News, et puis si vous avez le journal L'Union, ce journal publie aujourd'hui un diagnostic établi sur la région des savanes au Togo, pourquoi certains nombres de programmes et de projets que nous initions au Togo ont du mal à prendre. Voilà le menu du Club La Presse. Vous vous rendez compte, c'est des articles très soft, de proximité. Juste le temps de vous rappeler que à la technique, la réalisation et l'œuvre était Kossi Thomas Datevi. Au studio, deux dames, un homme, pour une fois, les femmes l'emportent sur les hommes. Il faut être au Club de la Presse pour vivre ça.
Malheureusement, nous sommes deux hommes.
Non, je parle de vous, les co-animateurs. Et puis, Ambroise Fifame, bonjour.
Bonjour, madame. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Bonjour, Eric, chers auditeurs, auditrices, lecteurs, abonnés de l'agence Savoir News. Dans cette fraîcheur, je suis contente de vous savoir
connecté. Tu es contente dans cette fraîcheur. C'est vrai que Lomé et sa sous-région sont arrosés par une pluie depuis ce matin. Oui. Mais Ambroisine, nous savons que quand il pleut, C'est pas tout le monde qui a le sourire.
C'est
toi qui es notre ambassadrice pour porter notre mot de solidarité à l'endroit des auditrices et auditeurs qui auraient peut-être leur maison les pieds dans différents quartiers.
C'est des moments qu'on déplore également. On ne peut pas être heureux tout seul. Et vivement que avant la fin de cette saison, qui malheureusement ne vient pas. Avant la fin de cette saison, que des mécanismes, des actions soient menées pour que des populations qui encore ont les pieds dans l'eau, pour les enfants qui encore ont froid la nuit parce qu'il fait trop froid dedans, parce qu'il y a de l'eau dans la maison, on puisse trouver des solutions.
Merci. Et au secours de ces populations se portent les agents de l'Agence nationale de la protection civile, une agence logée au ministère de la Sécurité. Je sais déjà qui sont sur le... Enfin, je devine qui sont sur le terrain, peut-être pour aider certaines personnes à sortir, pour prévenir. Un petit mot également à leur endroit,
les agents de la NPC. Il faut quand même dire que ces derniers temps, on a vu une certaine réactivité, une proactivité de la NPC qui est sortie avant même l'arrivée de certaines catastrophe entre griffes, hein, avertit les populations, alertées sur certaines choses qui pourraient se passer suite à des pluies annoncées par la météo. Et ça, c'est vraiment bien. Et je les encourage à être beaucoup plus proactifs, à anticiper. Et c'est ça qui permet de prendre les précautions.
Être proactif et anticipé. Eric Hugues, Pakoudjo Johnson, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour Madame Trenou, bonjour voisine, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Je suis très content que tu aies commencé par cette pluie et je voudrais surtout demander à mes concitoyens que le service national de la météorologie a annoncé depuis, je crois, le début d'année, que la saison pluvieuse sera longue et
bien arrosée.
Bien arrosée, évidemment, que il y aura beaucoup de difficultés pour la population. Et donc, je conseille à mes concitoyens de regarder très souvent les publications de ce service-là. Ce matin, il faut dire que j'ai un ami qui m'a envoyé très tôt le matin la situation du jour. Et donc, ça m'a permis de sortir très vite, aller faire de petites courses avant de venir ici. Et je n'ai pas tout fini, mais quand même, j'ai été rattrapé par la pluie. Et donc, parce que je savais qu'il allait pleuvoir, j'ai commencé très tôt. Donc, je crois que en prévision de tout ça, il faut que les concitoyens regardent les publications.
Merci pour cette exhortation. Depuis quelque temps, il faut en être heureux. Oui. Les prévisions de la météorologie togolaise sont fiables. Nous invitons à les consulter. Hein, ils le font bien. Déjà la veille, au journal de TVT, ils le font. Oui. Et puis, ils publient leurs prévisions sur les plateformes. Je nous en prie, consultons les informations de la météo et ainsi nous ne serons pas trop surpris.
Aussi de les encourager à le faire de plus en plus en langue pour permettre à tout le monde d'en profiter.
Merci notre invité, même si Eric l'a déjà annoncé, c'est Madame Chantal Adjoa Trenou. Bonjour.
Bonjour, c'est Sasgaou.
Retraité, vous avez travaillé dans une institution bancaire de la place, mais je peux le dire, vous êtes une auditrice fidèle du Club La Presse.
Oui, tout à fait. Je suis une auditrice très fidèle du Club de La Presse et d'autres émissions d'ailleurs de Canal FM.
Mais je dois ajouter que nous vous invitons aujourd'hui au nom de cette organisation internationale de bienfaisance qui joue dans l'humanitaire. Il s'agit de madame?
Il s'agit donc du Zonta International. Le Zonta International, pour vous situer, est une organisation de services comme à l'instar du Rotary, qui est peut-être davantage connu, du Lions Club et du Soroptimist Club. Et ce sont toutes des organisations qui ont été créés aux États-Unis. Le Zonta, lui, a été créé dès 1919 à Buffalo, aux États-Unis. Et il essaime dans pratiquement tous les continents, en Asie, en Europe, en Afrique.
En Amérique, évidemment,
les tout premiers clubs les plus importants sont en Amérique, donc dans 70 pays du monde. Et le Togo n'est arrivé dans ce concert qu'en 1988, bien après des clubs anglophones comme le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone et même donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes arrivés en 1988, mais nous étions donc le millième club du Zonta international. Et nous avons été célébrés pour cela à juste titre. Puis notre deuxième club, le Zonta Club Lomé Millennium, a reçu sa charte en l'an 2000. Et c'est pour ça qu'il est dénommé le Zonta Club Lomé Millennium.
Merci. Le Togo qui s'est connecté au Zonta international depuis 1988, ça fait déjà 35 ans, si ma mémoire est fidèle. Eh bien...
Si tu sais bien faire les calculs.
Merci beaucoup. Oui. Madame Trenou, vous êtes dans ce studio pour nous parler du Zonta international, surtout de cette 26e conférence de District 18 que le MEI accueille à partir du jeudi 19 octobre prochain.
Alors, pourquoi le Zonta, pourquoi le District 18? Le Zonta international est constitué de zones géographiques et le District 18 comprend toute la zone Afrique. Et donc, nous avons à peu près 13 pays d'Afrique qui font partie du district. Et c'est ce district qui se réunit donc à Lomé. Alors, les conférences sont biennales, c'est-à-dire la conférence internationale a lieu toutes les années paires et les conférences de district ont lieu toutes les années impaires. Et donc, le Togo accueille cette année la conférence de district après l'avoir accueillie pour la première fois en 1995. Et donc, c'est la deuxième fois que nous avons cet honneur-là. Il faut quand même vous préciser que c'est Madame Dadji Philomène, très connue, la femme de feu Dadji, qui avait été élue gouverneure de ce district et qui devait accueillir cet événement. Mais malheureusement, elle est décédée alors qu'elle n'avait pas encore pu être installée. Et le Togo s'est battu pour conserver cette opportunité en sa mémoire. Et donc, nous avons un gouverneur de district qui la remplace, en l'occurrence, Monsieur Salami Najim. Il faut là aussi vous préciser, et j'aurais dû le dire dès le départ, que le Zonta était avant tout un club service de femmes. Parce que le Rotary est un club service d'hommes, le Lions Club est un service d'hommes. Et le Rotary international a été attaqué aux États-Unis pour sexisme. Et il a été condamné. Et depuis lors, pour éviter ce genre de condamnation, tous les autres clubs services se sont alignés et nous ne disons plus que le Zonta est un club de femmes responsables dans les affaires et les professions, mais on dit que c'est un club d'hommes et de femmes.
Autrement dit, le Zonta s'est ouvert
également. C'est ouvert, aux hommes, pareil.
Preuve, le gouverneur actuel du 18 est un compatriote, un homme.
Mais quand même, il faut préciser que les hommes ne représentent aujourd'hui que 2% des membres du Zonta international.
Rendez-vous dans 20 ans et vous verrez la proportion des hommes
parmi vous. Et s'il vous plaît, nous sommes le seul pays qui avons aujourd'hui, non, c'est le premier gouverneur du district. Voilà.
C'est innové dans divers.
Exactement. Voilà.
Eh bien, cette conférence, la 26e du district 18, va débattre du thème engagé pour construire un monde meilleur pour les femmes et pour les filles. Je l'ai dit, c'est une conférence qui se tient sur 3 jours, les 19, 20 et 21 octobre prochain. Mais un avant-goût des activités au menu de votre conférence, madame.
Oui, donc les délégations ont commencé à arriver, dont la représentante du Zonta International en personne. Dès jeudi, nous aurons l'ouverture officielle et solennelle à l'hôtel Sarakawa, en présence d'illustres invités et autorités du pays. Donc l'ouverture solennelle avec tous les discours qui se font pour l'occasion.
Oui.
Nous aurons une keynote speaker.
Nous sommes en français, madame.
Oui, mais...
Le Togo a adhéré au Commonwealth, mais le propre la presse anime en français pour le moment.
Oui, d'accord, et bon, donc je ne vais pas dévoiler, donc...
traduisez en français.
Keynote speaker. Ben, c'est la personne qui va délivrer le message principal, le message principal, hein, et de la conférence. Il y aura, bien sûr, la présidente internationale, son message, l'accueil et autres, mais nous aurons... quelqu'un de très connu qui va délivrer le message. Je vous laisserai découvrir cette personne. Et donc, nous allons faire une pause et tout. Et puis, nous démarrerons les travaux avec les ateliers, hein, des ateliers différents sur différents thèmes prévus pour l'après-midi, hein, et qui ont... rapport avec le thème principal de notre conférence, engagé pour construire un monde meilleur pour les femmes et les jeunes filles.
Merci. Je rappelle que les travaux de cette conférence se déroulent à l'hôtel Sarakawa, à Lomé, ici, les 19, 20 et 21 octobre. Merci, madame Trenou, d'avoir pu vous libérer pour nous en parler. Mais vous restez à nos côtés, d'autant plus que sur le coup de 12 heures, nous allons ouvrir les antennes. Peut-être qu'un auditeur, une auditrice voudrait en savoir davantage. Et il ou elle compose le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75 pour poser des questions ou bien émettre un commentaire sur le Zonta Club, à moins que FIFA met ici déjà ou bien Eric, l'une ou l'autre. Je ne sais pas si vous avez un avis, une impression sur le Zonta. Eric?
Non, je... Dans la présentation, elle a dit que c'est un groupe de gens responsables, hommes d'affaires.
Responsables dans les affaires, dans les professions.
Voilà. Et c'est quoi le mode d'adhésion au Zonta Club?
Madame?
Oui, alors...
le micro, s'il vous plaît.
Oui, nous répondons à des schémas bien fixés. Il faut en général être coopté en quelque sorte. Hein. Bon, vous, c'est vrai que non, ça s'est vraiment élargi aujourd'hui. C'est beaucoup moins sévère qu'au départ, hein, dans tous les clubs services.
Il faut être coopté par un membre. Il faut être coopté
en général par un membre.
Oui.
Hein, et il faut, en principe, remplir les conditions.
Lesquelles, par exemple?
Nous étions avant 2 par profession. Si vous avez 2 notaires, c'est 2 notaires, 2 médecins ou 2 esthéticiennes, tout ce que vous voulez. Il fallait être 2 par profession. Hein, et il faut évidemment être de bonne moralité, hein, parce que le mot Zonta est un mot sioux qui veut dire
bonne moralité,
et digne de confiance, honnête et digne de confiance. Hein, c'est notre sigle, c'est un sigle sioux indien qui veut dire honnête et digne de confiance. Donc, si l'un d'entre nous s'oppose à ce que vous ne rentriez pour une raison ou pour une autre qu'elle n'a d'ailleurs pas à expliciter, normalement, on n'accepte pas. Et il faut payer des cotisations, hein, il faut payer des cotisations qui vont donc au club, une partie au club, une partie au district et une partie à l'international. et surtout bah, un vouloir être engagé, hein, parce que on dit le plus grand slogan du Zonta que moi j'ai retenu, parce qu'à l'époque bon, nous étions membres fondateurs, c'était donner de soi-même, de son argent et de son temps.
Donner de soi-même, de son argent et de son temps. Voilà les voilà. Trois volets sur lesquels se décline l'engagement au service. Dans la foulée de la question de est-ce qu'il y a déjà un ou une journaliste dans l'un des clubs du Zonta ici au Togo?
Journaliste en tant que tel, non, mais nous avons à l'heure actuelle, donc dans le deuxième club Millennium, une dame de médias. Et c'est d'ailleurs elle qui est chargée en ce moment de la communication.
Quels sont les domaines phares dans lesquels vous intervenez?
Alors, par définition, donc, club service, mais éminemment axé sur le devenir, le bon devenir des femmes et des jeunes filles. Et donc, nous nous sommes battus sur l'autonomisation des femmes. Nous nous battons pratiquement tout le temps sur les violences faites aux femmes, mm-hmm. hein, et les activités génératrices de revenus. Hein, et nous avons d'autres actions un peu plus sporadiques, des dons, les bancs, l'école, et nous avons construit un dispensaire à Mélie Digbé, hein, nous avons fait des forages à Défalé, nous avons aidé les femmes à Fassa, hein, à construire des fours solaires pour à façade de Caras, je ne sais pas si vous connaissez l'organisme.
Pour
solaire.
Merci. Alors, merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci. Il est déjà 11h22. C'est juste annoncer la 26e conférence d'ici 18 de Zonta.
Je pense que c'est très important de savoir comment on détermine l'endroit où vous allez agir. Comment vous déterminez ça? Est-ce que c'est des projets que vous recevez et que vous étudiez avant d'agir ou comment ça se passe?
Oui, nous recevons des projets et qui sont donc étudiés par des commissions dédiées hein, à cela, ou nous-mêmes évidemment. Hein, parce que chaque biennale, nous avons quand même des objectifs qui nous sont fixés. Et donc, nous essayons aussi de tenir hein, dans ce cadre-là et nous-mêmes, nous proposons des projets.
Merci. Toujours dans le sens de la bienfaisance, voire de l'humanitaire. Je me rappelle cet article de Savoir News que j'ai lu, Ambroisie. Cet article qui porte sur la semaine de la santé. Hein, ce sera début novembre, mais Savoir News anticipe et nous l'annonce déjà.
Oui, c'est pour qu'il y ait une mobilisation autour de cet événement. Ça va se passer sur toute l'étendue du territoire, du 2 au 11, et c'est la santé communautaire.
Du 2 au 11 novembre,
du 2 au
2023.
11, oui, 2023, et assez sur la santé communautaire. Et quand on parle de problèmes de santé, ouais, nous sommes tous concernés, et donc vivement que tout le monde se mobilise autour de cet événement qui permettra aux praticiens de donner la parole aux populations pour qu'elles puissent s'exprimer et poser des questions, mieux comprendre les questions de santé, parce que la semaine sera marquée par des activités de dépistage de l'hypertension artérielle, mm-hmm. dépistage du diabète et de l'obésité. Mm-hmm. Par exemple, comment on sait qu'on est obèse? On parle de prise de poids, on parle de surpoids. Quelle est la différence?
On parle surtout de la masse de corps.
Indice de masse corporelle.
Voilà,
toutes ces choses, c'est l'occasion de poser des questions. Quand est-ce qu'on passe de l'obésité, du surpoids à l'obésité? Mm-hmm. Aujourd'hui, on dit que les maladies dont nous souffrons ont pour origine notre consommation. Ce que nous mangeons, comment nous mangeons, qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous devrions manger et comment nous le faisons, d'où vient ce que nous mangeons. Il y a des gens qui sont des hypertendus mais qui ignorent qu'ils ont une hypertension. Et c'est quand arrive un AVC qu'on se rend compte que la personne, ce n'est que la conséquence d'une hypertension artérielle mal traitée. Alors, il y a des gens qui ont une glycémie élevée, mais qui continuent de manger un certain nombre de choses qu'ils ne devraient pas manger. On nous dit beaucoup de fruits et de légumes, de prendre peu de sucre, peu de sel. Moi, par exemple, moi, je ne mange pas sucré. Mm-hmm. Ça fait pratiquement 10 ans que moi, je n'ai jamais touché à un cube de sucre. Jamais. L'huile, je fais tout pour rester vraiment limite. Donc, il y a certaines habitudes. C'est le moment d'avoir des explications, des informations sur les réflexes qu'il nous faut. C'est pour ça que j'en parle, justement. J'en parle tôt pour que le moment venu, tout le monde puisse aller écouter, aller apprendre de ces praticiens et aussi dire ce qui ne va pas, ce qu'on voudrait d'eux et qu'on n'a pas. Mm-hmm. Quand vous allez, par exemple, à l'hôpital, on vous prescrit des produits. Normalement, le praticien doit vous expliquer comment prendre. Pourquoi je t'ai... Ça, par exemple, c'est par rapport à ça, ça. Et vous laissez le temps de répondre. C'est quand il prend son bic, mais le patient, déjà, il réfléchit à combien il va débousser. Et donc, voilà. Il y a toutes ces questions-là. Il y aura également une activité sportive qui va boucler du footing pour boucler et la semaine, cette première édition de la semaine de la santé organisée par l'Ordre des médecins du Togo.
Et toujours pour l'alimentation, si nos amis de santé et éducation étaient là, il nous dirait que nous ne devrions pas manger pour notre langue, mais plutôt manger pour notre organisme. Eh bien, vous l'avez dit, la semaine de la santé du 2 au 11 novembre, ce sera surtout des quartiers du...
Oui, et l'événement a été lancé à la maison des jeunes de
Amanda. Nous avons un peu de temps d'ici là et peut-être que nous allons approcher le président de l'ordre, professeur Beketi.
Oui, pour en savoir plus. Je vous y encourage vraiment. Tout ce qui concerne la santé, ça nous concerne.
Mais nous restons toujours avec la femme de cette semaine de la santé. Un autre article de Savoie News qui porte sur le concours Miss Monde qui va se dérouler avant la fin de l'année. Ce sera le 16 décembre à New Delhi,
en Inde.
Mais nous en parlons parce que le Togo pourrait avoir une candidate.
Bien sûr. Notre Miss, l'actuelle ambassadrice du Togo, Mademoiselle Chimène Nemolaja, participera à ce concours pour le compte du Togo. Et donc, c'est une première. Et nous appelons tout le monde à la soutenir parce qu'elle aura besoin, elle s'est exprimée, elle aura besoin du soutien de tout le monde. Donc restons scotchés, restons connectés aux pages du comité national Miss Togo. L'annonce a été faite dimanche par le président d'ailleurs du comité Miss Togo, que j'ai suivi sur la télévision nationale. Et cette participation, a-t-il expliqué, à cette compétition de taille est un défi que le comité Miss Togo s'est lancé, qui va contribuer également au rayonnement du pays à l'international. Et vivement, en restant à l'écoute, et dès que la phase de vote sera lancée, et n'hésitons pas.
Merci le groupe La Presse qui est au bon soin de la gente féminine. Vous vous rendez compte, on a commencé avec Madame Trenou qui nous a parlé, ou bien qui est toujours là pour nous parler de la 26e conférence du district 18 du Zanta International avec le thème engagé pour construire un monde meilleur pour les femmes et les filles. Les filles à l'honneur avec Chimène Boladja qui représente le Togo au concours Miss Monde. Ce sera le 16 décembre 2023 à New Delhi, en Inde. L'autre article de Savoie News qui porte sur la semaine de la santé, ce sera du 2 au 11 novembre, avec ses activités, ses informations pour anticiper certaines maladies qui nous handicapent. Eric, maintenant on peut passer à toi l'homme, n'est-ce pas? Eh bien, l'Union et vous respectez toujours votre tradition, je vous en remercie. À la page 2, deux articles qui portent sur les arts, la culture et le tourisme. Commençons par l'hôtel Rock Hotel de Takpamé, qui en temps avait été fermé pour travaux. Et le ministre Pierre Lamadoukou a annoncé depuis quelques jours que le Rock Hotel a retrouvé du service.
A repris service, effectivement. Ça, vous savez, on l'a toujours dit, il y a plusieurs ministres du tourisme qui ont essayé, mais qui n'ont pas pu. Tout simplement parce que les gens étaient très réticents, les gens s'accrochaient à leurs privilèges et ne voulaient pas du tout que ça bouge. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a même un appel à candidature qui a été lancé pour tous les hôtels publics du Togo. Mm-hmm. Et donc, c'est dire que les nouvelles autorités ont quand même pour objectif de changer, de modifier un peu les choses, parce que on était revenu d'une tournée à l'intérieur du pays et on a fait l'état des lieux de certains hôtels ici. Ça, vous ne pouvez pas débourser de l'argent pour aller dormir dans une, excusez-moi le terme, dans une porcherie. Mais c'est à ça que ressemblent aujourd'hui certains hôtels publics du pays. Alors, le Rock Hotel d'Atapamé a été entièrement rénové. Et aujourd'hui, c'est le ministre Lamadoukou lui-même qui l'a annoncé sur sa page Twitter. Aujourd'hui, c'est X, hein, c'est comme ça. Donc, sur sa page X, il a annoncé pour dire qu'aujourd'hui, l'hôtel peut accueillir n'importe quel genre de visiteurs, mm-hmm. C'est-à-dire des moins privilégiés aux plus privilégiés, mm-hmm. C'est-à-dire quels que soient les moyens que vous avez, aujourd'hui vous pouvez loger à l'hôtel Rock Hotel de Takpamé. Et il a bien fait d'essayer de donner, de repeindre cet hôtel-là qui était vraiment en désuétude totale.
Merci. Le Rock Hotel qui reprend service, qui s'ajoute à l'hôtel 30 août à Palimé. Mmh. Je présume que l'hôtel Central FM, Central à Sokoré également.
Non.
Pas encore.
J'avoue que j'ai des images de cet hôtel-là qui ne sont pas du tout reluisantes. Faut pas y aller tout simplement.
Nous en parlons parce que si la Mandoku finit, s'il a fini 30 août, s'il a fini Kara, s'il vient de finir Rock Hotel, il faut qu'il dirige ses regards également vers l'hôtel Central.
Et il faut qu'il y ait des dirigeants très stricts dans ces hôtels-là. Parce que
quand la Mandoku rénove un hôtel public, il change l'administration. Jésus a dit on ne peut pas mettre du bon vin, du nouveau vin dans une vieille outre.
c'est difficile. Ouais. Ça, vous savez, la plupart du temps, des gens qui sont en mission, il suffit qu'ils aient un pan d'autorité, ils vont dans ces hôtels publics là et puis ils laissent une facture que normalement
ils laissent ou bien ils laissaient. Ils continuent à laisser des factures impayées.
Enfin, si les administrateurs vous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas de moyens pour payer les employés, ils n'ont pas de moyens pour faire de petits travaux dans leurs hôtels, allez-y voir quelque chose, parce que là, c'est un souci fondamental qu'il faut qu'on règle définitivement, parce que les gens perçoivent des frais de mission et pourtant, ils vont encore rester dans ces hôtels-là avec des factures.
Ambroisine, toi et moi, nous sommes au studio ici, mais si nous étions Pierre Lamadoukou, si nous cherchons de l'argent pour rénover les hôtels-là, c'est que, un, nous changeons la gérance avec des gens qui sont en phase avec nous. Et dorénavant, tout visiteur qui devrait loger dans ces hôtels, qu'il soit du privé ou bien administratif public, devra s'acquitter de sa facture.
Normalement, on fait un état des lieux, on fait un état des lieux et on voit les compétences dont nous avons besoin pour la gestion. et avec des cahiers de charges bien définis, on sait qu'il y aura une obligation de résultat. Et donc, forcément, il y aura à revoir toute l'équipe et à faire fi de ces facilités qu'on accorde à un cousin ou à un membre de la famille pour se calquer sur les compétences, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on veut avancer, si on dépense pour rénover et on met les mêmes personnes qui ne donnent pas de résultats, c'est normal. Si on veut changer, à l'entame de l'émission, tu donnais déjà la sagesse.
Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être si nous demeurons ce que nous sommes.
Alors, il faut commencer par changer les choses, parce que si ces hôtels en sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion. C'est vrai que la période Covid, mais le problème existait avant Covid. Donc voilà, il faut voir véritablement les compétences qu'il y a, celles qu'on peut exploiter, les personnes qui peuvent véritablement et valablement assumer leurs responsabilités, conduire une équipe, aboutir à un résultat que nous voulons, le résultat que nous voulons par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est avec cette équipe-là qu'on peut avancer. Si vous n'avez pas la bonne équipe, vous ne pouvez pas avancer.
Merci, Lamadoko. C'est bien pour le Rock Hotel, mais nous attirons votre attention. Il y a également l'hôtel Abuta à Balou, que Lamadoko est censé bien connaître. Et il y a également l'hôtel de Bassa, qui est également si au flanc de la montagne, qui est également en décrépitude. Ces hôtels qui ont besoin de rénovation, on rénove les infrastructures, on rénove également la gestion et on impose la rigueur pour tout le monde. Si un cadre public voyage dans le Togo, il a ses frais de mission, il faut qu'il paie l'hôtel où il va demeurer. Mais revenons à Lomé ici, Eric, avec cette exposition dont tu nous parles. C'est ton journal qui parle, qui nous informe. Il s'agit de l'œuvre de l'artiste Bernard Brisé.
Oui, Bernard Brisé, je peux dire tout de suite que c'est un dadaïste. Le dadaïsme, c'est un mouvement qui vise à renverser l'ordre des lois de la logique. Mm-hmm. Et donc, lui, il est beaucoup plus ancré dans la photographie. Et prenons tout simplement un exemple. Il dit que la tour Eiffel de Paris, mm-hmm, c'est une tour que beaucoup d'Africains aiment. Tout le monde aimerait bien aller séjourner à Paris pour voir la tour Eiffel ou même aller manger un coup. Et donc, il prend cette tour Eiffel-là parce que pour lui, il faut sortir les lieux même de leur contexte naturel pour les amener ailleurs et essayer de les peindre, mm-hmm, en quelque sorte. Et donc c'est ce qu'il fait avec la tour Eiffel où il prend des Togolais qui sont au Togo, qui n'ont jamais mis pied en France, mm-hmm, et pourtant il les met devant la tour Eiffel pour faire une photo. Et avec un peu de peinture, de gouache et tout ça, il essaie de remettre cette image-là, quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que cet homme-là...
Mais que lui crée dans son atelier. C'est ça l'artiste.
Voilà.
Et Bernard Brisé, il est diplômé de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Il a publié entre-temps un livre de photographie avec notre compatriote Kanye Alem sur les albinos du Togo. Mmh. Et sa technique, comme Eric en parlait, pour Bernard Brisé, le processus d'exotisation consiste à déconnecter un lieu et des personnes de leur contexte local et de les replacer dans un autre cadre. Et les œuvres qui vont faire l'objet de cette exposition, c'est une série de photographies que Bernard Brisé a réalisées à Lomé ici en janvier-février 2022 dans le cadre d'une résidence d'artistes organisée par l'association Fil Bleu et la Commission nationale de la francophonie du Togo. L'exposition, ce sera où, Eric?
Logiquement, comment vous
à l'Institut français.
L'Institut français du Togo.
Bien sûr, je devine déjà des gens qui vont se demander pourquoi c'est encore à l'Institut français du Togo, c'est qu'en attendant,
c'est l'espace qui
c'est ce que nous avons. Pour le moment, on a l'IFT, on a le Goethe-Institut, on a quelques galeries privées aussi. Mais vivement que Lamandoku, encore lui, hein, il y a la culture, qu'il cherche les moyens pour doter notre pays de centres de conférences. Hein. Mais FIFA, mais il faut quand même rappeler que il y a déjà le palais de Lomé qui peut offrir également son cadre pour des expositions. C'est ce à quoi le palais de Lomé a été rénové il y a un moment.
Bien sûr, bien sûr. Et vraiment, moi je dis, je voudrais
revenir. On dirait que tu te dégonfles.
Je pensais, je rêvais hein, avec le dadaïsme dont parle. Et c'est bon. Quelque chose qui
a
rêvé grand, mettre quelqu'un qui est ici devant la tour et faire se voir les choses de façon avec une plus grande vision. Mm-hmm. Et c'est une façon de bouleverser l'ordre des choses et de rompre avec la logique rompre avec tout ce qui stagne, mettre du dynamisme dans les choses, amener aussi les gens à dépasser leurs idées, à rêver grand, à transcender, à voir plus loin que ce qui se passe devant. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux.
Donc, c'est comme si on peignait Eric Johnson sur un fond de la Brandenburg-Tour, la porte de Brandenburg à Berlin, ou bien devant le Capitole.
Voilà,
j'ai déjà visité ça.
Ah oui.
Alors, ça vous donne des idées fous. Hein.
Ville, elle aurait aimé que notre ami Bernard brisé la peignit. Madame, vous auriez aimé être peinte dans quelle ville? Comme ça, on file l'information à Bernard brisé. Madame Trenou?
En Europe ou quoi?
Europe, en Asie, un peu partout. Pourquoi pas
même au Ghana?
On peut vous peindre quand même sur fond de Haoutou, madame Trenou.
À Dakar. Ils ont beaucoup le sens de la culture.
Merci, c'est bien.
Oui, maintenant, nous allons aborder cet article à la page 3. Article intitulé « Cohésion sociale dans les savanes, ce qui fragilise cette région selon les populations consultées ». Il s'agit en fait de la restitution que l'article fait de diagnostic qui a été fait dans la région de savane. Pourquoi malgré les bonnes volontés, pourquoi toutes les ONG, pourquoi malgré les efforts du gouvernement, la région des savanes reste toujours à être la plus pauvre du Togo, n'est-ce pas Eric?
Oui, au fait, c'est une étude qui a été demandée par l'ANADEB. L'ANADEB qui est l'institution qui gère le projet COSO. Mm-hmm. Le projet COSO, cohésion sociale, qui est un projet qui est financé par la Banque mondiale pour les pays au nord du golfe de Guinée. Mm-hmm. Et donc, ces pays-là, ces régions qui sont concernées par ce projet-là, sont en difficulté. C'est des pays d'extrême pauvreté. Mm-hmm. Et donc, ce projet vise plutôt à lutter contre cette extrême pauvreté-là. Maintenant.
L'article. Aborde ce diagnostic, diagnostic commandité par l'Agence nationale d'appui au développement à la base dans le cadre de ce projet dénommé cohésion sociale. Le cadre est bien planté.
Oui.
Maintenant, avançons, Eric.
Alors, il faut dire que ce projet, COSO, a bien démarré.
Disons plutôt cohésion nationale.
Cohésion nationale. Mais c'est COSO, il faut qu'on aille vite. Et donc, ça a démarré effectivement en juin 2022. Et le diagnostic qui a été fait en mars 2023. Mm-hmm. Et donc, cela consiste à voir pourquoi, malgré tout ce que ce projet-là a commencé à faire, déjà on parle de 50 infrastructures communautaires mises en place, mm-hmm. avec des forages et des bâtiments scolaires, des centres communautaires de santé, etc. Mm-hmm.
Ouais.
Mais malgré ça, on a comme l'impression que rien n'y fit. Mm-hmm.
Alors, les populations ont été consultées pour qu'elles disent elles-mêmes ce qui ne va pas.
Oui.
Alors, ça, d'abord, c'est un diagnostic qui a été fait sans complaisance. Mm-hmm. Je l'affirme par rapport à tout ce qui a été dit.
J'ai lu ton article, je t'appuie dans ce sens.
Voilà. Et donc, de go, les populations ont commencé par dire qu'en réalité, on leur annonce des projets. On démarre les projets et ces projets-là n'arrivent jamais à terme. Mm-hmm. Pourquoi ? Tout simplement parce que les financements n'arrivent pas.
La lenteur du financement qui n'arrive pas toujours.
Toujours. Mm-hmm. Et donc, ça crée un problème au niveau des populations.
Oui.
Les populations se disent déjà lésées. Donc, on vient, on nous brandit des choses, on va vous faire ci, on va vous faire ça, mais à la fin, rien.
Pas grand-chose.
Pas grand-chose. Mm-hmm. Alors, plus loin.
Mais et justement, à quoi est due cette lenteur du financement? Parce que ça a été annoncé, c'est conclu entre l'État togolais
et le bailleur.
Le bailleur, on annonce financement, on l'annonce publiquement, et puis on constate que l'argent ne vient pas. Alors, à quoi est-ce dû? Est-ce que c'est le bailleur finalement qui ferme sa main, ou bien est-ce que c'est dû à des problèmes de notre administration ici?
L'un dans l'autre, on est dans tout ça. Mm-hmm. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, quand vous lancez un projet, vous avez déjà le budget et tout, il y a une partie qui est financée par l'État. Mm-hmm. Et il y a aussi la participation de la communauté bénéficiaire de ce projet.
Oui.
Alors, au vu des antécédents dans ces milieux-là, les populations elles-mêmes ne veulent plus, elles sont réticentes tout simplement, réticentes à participer mm-hmm. à ce genre de projet.
Oui.
Puisqu'on vient collecter l'argent chez elles, mais après les projets ne sont pas là. Mm-hmm. Donc, par rapport à ces antécédents, les populations sont réticentes tout simplement à participer. Au niveau des bailleurs, mais ça, on n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que nous avons des projets, on annonce des milliards et qu'à la fin on nous dit que on n'a pas consommé tout le financement. Donc parfois c'est ceux qui sont à la tête de ces projets-là qui malheureusement je ne sais pas comment ça se passe, mais qui n'arrive pas. À déposer au plus tôt les demandes de financement, ou qui savent très bien que quand vous demandez un financement, c'est que ça peut arriver 2 mois, 3 mois après. Mm-hmm. Mais on attend jusqu'au lancement du projet avant de commencer par
Merci
faire.
Merci Eric. Autre problème que soulèvent les populations, c'est les détournements. Les surfacturations,
justement,
des ventes illicites des articles, des produits, même la fabrication de certains. On leur prend de l'argent pour certains actes qui devraient être gratuits.
Oui.
C'est ce que les populations
exposent. C'est dans la pratique. C'est-à-dire qu'au moins, le projet est là, mais maintenant, on arnaque tout simplement les populations. Mm-hmm. Parce que vous imaginez, la semaine dernière, pendant 2 semaines, on a parlé de vente de produits illicites dans les hôpitaux ça. C'est une autre forme. C'est-à-dire que les populations devraient normalement bénéficier gratuitement de ces services publics. Mm-hmm. Mais quand elles arrivent sur le terrain, on leur demande de payer. Merci. Parfois même, vous savez, les populations ont également soulevé un fait, mais ça, des gens qui ont dit ils sont extrêmement pauvres.
Oui.
Et il y a un contentieux. Vous savez que le problème foncier constitue un lot.
Je constate que les litiges fonciers également abondent dans les savanes.
Vous imaginez que les populations viennent se plaindre à la justice pour que justice leur soit faite, mais on leur réclame 150 000, 175 000, 200 000, avant même qu'on aille sur le terrain constater ce qui se passe pour venir trancher.
Ça, c'est la justice.
C'est la justice.
Alors que nous avons une justice supposée, modernisée, beaucoup plus alerte, et qui soit réellement au service du justiciable.
Voilà. C'est des cas que les populations ont soulevés pour dire que, au fait, avec ce projet-là, on pourrait aussi régler les problèmes fonciers, les litiges fonciers dans le milieu. Et je ne comprends pas comment ça se passe, mais un déplacement d'un
procureur
sur le terrain qui va coûter autant d'argent
pour des populations déjà pauvres. Mais l'autre problème que sur les populations déjà pauvres, c'est le non-recrutement des ouvriers et manœuvres de leur milieu quand on vient leur faire des infrastructures.
Ah oui, ça, la population dit, vous dites que nous sommes pauvres, vous venez nous aider. Et il y a des travaux à faire. Des gens ont appris quand même quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien qu'ils ne peuvent pas travailler. Mais vous venez avec des ouvriers d'ailleurs. Mais vous pourrez mettre des chefs chantiers, des superviseurs et tout ça. Mais vous les recrutez tout simplement pour travailler. Mais là, ça ne se fait pas carrément. On les oublie. On vient, on dit lancement des travaux. Et puis, c'est une équipe qui
Merci
vient.
Merci Eric. Autre problème que sur la population, c'est les crises de chefferie traditionnelle et l'action contre-productive, pour ne pas dire néfaste, des partis politiques. Sur leur milieu.
Oui, mais ça, c'est un problème récurrent dans nos milieux, dans nos villages, dans nos contrées, parce que les politiques s'impliquent un peu trop désormais dans les histoires de chefferie, alors que dans le temps, cela se faisait très calmement. Je me rappelle, j'ai assisté une fois à la désignation du chef, je ne sais pas si c'est à Moutivé ou B, au lycée de Tocoin, sur le terrain, où les gens se sont alignés pour désigner le chef canton. Et là, on était enfin tout petit, mais ça ne nous disait rien. Mais aujourd'hui, je réalise que nous avons notre mode de désignation ou d'élection de nos chefs. Mais ça, il faut voir. Et là, vous savez clairement que tel n'a pas voté pour vous. Mais ça ne créait aucun souci dans nos communautés. Mais aujourd'hui, dès qu'on parle de chefferie, les gens veulent s'imposer politiquement. Vous n'avez pas droit à être chef, mais vous passez par des contorsions. Vous allez voir
tel... Eric, je peux te dire que le problème de chefferie infeste pratiquement tous nos villages et cantons. Le nouveau ministre, colonel Awateo Dabalo, il a du boulot parce que pratiquement il n'y a pas de village, il n'y a pas de canton qui ne connaissent pas de problème de contestation de chefferie. Mais nous allons évoluer avec ce diagnostic encore. Les populations qui parlent, qui disent que les routes et les ponts initiés sont restés inachevés, les chantiers inachevés, et les populations disent carrément qu'ils ont l'impression qu'on nous trompe.
Oui, c'est ça. Lorsque vous engagez un chantier que vous ne finissez pas, ça veut dire que vous trompez les populations. Et c'est ce que la population a clairement dit à l'enquêteur. Le consultant a bien fait de recevoir des groupes ensemble où clairement c'est des gens qui disent des choses drues. Et après, il y a aussi cette consultation individuelle où il a eu à recevoir les gens individuellement pour dire clairement ce qu'ils pensent.
Et c'est là, que je vous invite à aller. Mais pour terminer encore cet aspect que relève la population des zones frontalières se disent négligées dans les stratégies de développement de l'État. Du fait du manque de réseaux routiers de qualité, du fait du manque d'eau potable, d'électricité, même les enseignants et le personnel médical affecté dans la région restent rarement.
Oui, Mais attends,
rarement.
Oui, rarement, parce que c'est pas une région qui plaît à tout le monde. Vous imaginez quelqu'un qu'on prend même de ton village là, hein, pour l'amener dans une contrée où l'électricité vient à peine 2 heures par jour, où il n'a pas l'eau potable, où pour manger il faut parcourir des kilomètres avant d'aller au marché. Alors je crois que ce projet COSOR veut résoudre tous ces problèmes-là de façon globale. Mais il faut forcément des gens vraiment consciencieux de la situation pour mener à bien ce projet. Et je crois que c'est ce que le consultant a recommandé. Il a fait 13 recommandations et il a bien dit.
Merci.
Que
mais Eric, population... mais pour les fonctionnaires, je crois qu'ils se sont engagés à servir partout où besoin sera, qu'ils soient enseignants, administratifs ou personnes de santé. C'est eux qui se sont engagés. Ils devraient servir partout où l'État les affecte. Même si je sais, il y a des gens, même quand on les affecte de Lomé, même à Thiévier ici, ils prennent ça pour une sanction.
Oui. Parce que en temps, il y avait eu ça. C'est parce qu'il y avait eu ces sanctions-là. On prenait les gens de Lomé, on les envoyait à Djakpaka où il n'y a même pas de route pour y accéder.
Mais c'est toujours le Togo aussi.
Mais
les gens pour servir là-bas.
Oui, c'était des sanctions dans le temps. Mais aujourd'hui, les gens ne. Je ne crois pas que forcément c'est pour encore des raisons politiques que les gens refusent d'aller dans ces milieux. Mais c'est plutôt pour des questions de commodité que les gens refusent d'y aller. Aujourd'hui, je vais peut-être dire à nos frères de cette région-là qu'il y a encore de l'espoir avec le projet PURSE qui a commencé.
Le programme d'urgence de la région de Savanes.
Qui a commencé par résoudre un bon nombre de ces problèmes-là. Et le général Yac, il est de ce milieu, il est ministre de l'eau, ministre de l'eau, et je pense que il doit connaître bien les problèmes que vivent ces populations.
Merci Eric pour cet éclairage là. L'article est à lire à la page 3. Et Ambroisie, je ne sais pas si tu as déjà pris connaissance ou de l'article ou du diagnostic, mais cela arrive bien à point. Hein, c'est l'ANADEB qui a commandité cet article là dans le cadre du projet cohésion sociale. Mais Eric l'a dit. Le gouvernement même a élaboré le PURSE, le programme d'urgence de savoir. Le gouvernement a besoin de l'éclairage de telles études pour éviter de ne pas perpétuer les mêmes erreurs.
Bien sûr, voyez-vous, quand les populations manifestent un désintérêt pour les projets, c'est parce qu'il n'y a justement pas une inclusion. Quand le projet ne vous inclut pas, quand vous avez des enfants qui ont la capacité de faire quelque chose et que le bailleur vient avec son équipe lui-même pour réaliser un projet qui te concerne toi, alors que tu as les bras
ballés. Ou bien ce sont les techniciens qui, depuis leur bureau de Lomé ici, confectionnent des projets.
Et quand les réalités du terrain ne sont pas prises en compte dans l'élaboration même du projet, je pense que forcément il y aura tout ce que Eric a dit dans son article, cette gouvernance approximative des projets. Mais il faut vous tenir tranquille parce que la chef de gouvernement l'a dit, zéro tolérance pour la gouvernance approximative des projets. Tolérance zéro pour les retards, tolérance zéro pour les malfaçons techniques, tolérance zéro pour cette gouvernance approximative. Elle l'a dit dans le cadre de quand elle elle lançait le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain. Et donc, toutes ces choses-là vont véritablement se résorber.
Je voudrais dire, dans un cadre plus général, vous imaginez un peu ce qui se passe. C'est parce que on ne demande pas souvent nos avis sur certains projets dans un cadre plus global, je voudrais dire. Et là, on nous dit que nous avons des bailleurs de fonds, nous sommes en coopération avec telle puissance et là, mais des gens qui amènent des ouvriers de chez eux pour exécuter des travaux, pour conduire des projets chez nous. Et là, nous sommes là, et puis, alors que nous avons des compétences ici. Mais, vous savez, c'est pour cette raison que certains pays préfèrent ne même pas demander des financements de certaines puissances. Parce que les messieurs là, ils vous disent, nous vous faisons don de tel montant, et en même temps, nous vous prêtons tel montant, mais ceux qui perçoivent avec les ouvriers, eux-mêmes, ils disent assistants techniques, assistants et tout ça, ceux qui perçoivent avec ça, c'est pratiquement les trois quarts de ce qu'on vous donne. Et là, ça crée véritablement un problème sur le terrain.
Merci, merci pour cet article. Hein. Ça va sûrement inciter les curieux à recourir à l'intégrité même, à l'intégralité même de cet audit là, de ce diagnostic. Hein. Et puis au-delà de la NADEB, c'est tout le ministère de développement, la base, pour ne pas dire pour tout le gouvernement, qui devrait s'approprier les études là, surtout pour éviter de perpétuer les erreurs. Ambroisie le rappelait tantôt, la première ministre disait il y a seulement quelques jours que nous devrions arrêter de commettre les mêmes fautes, que ce sera tolérance zéro pour les projets mal exécutés ou bien non réalisés. Alors Madame Trenou, au cas où Zontao devrait avoir un projet dans la région des savanes, vous savez à quoi vous venez?
Non, tout à fait, c'est bien noté, c'est bien noté, et on ne manquera pas.
Merci, il est midi, nous marquons une pause, un clin d'œil à nos partenaires, puis nous rebondissons avec vous par vos commentaires et vos questions.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
C'est parti avec autour de nous Ambroisine, FIFA, Mémédé de Savoir News, Eric Johnson de l'Union et notre invité Madame Trainou qui est venue nous parler de la 26e conférence du district de Zonta International. Vous avez vu, vous en rendre compte, c'est des questions de proximité de société que nous avons exposées et qui devraient vous intéresser, n'est-ce pas? Oui, Thomas m'annonce déjà le premier auditeur en ligne ou bien première auditrice. Bonjour. Allô? Auditeur, auditrice.
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, monsieur ça.
Oui, c'est monsieur.
Combattez d'Avenou.
Pardon?
Combattez d'Avenou.
Ok. Allez-y, s'il vous plaît.
Oui, s'il vous plaît. C'est pour le débat qui a concerné la région des savanes.
Oui.
Vous êtes sans savoir que la région des savanes fait frontière avec trois pays.
Le Burkina, le Bénin, le Ghana.
Voilà.
Oui.
Les infrastructures dont la population a parlé, c'est une réalité. En réalité, sa situation devait être, en principe, un atout. Mais il manque d'infrastructures, surtout routières.
Oui.
Des fois, on constate que le pays voisin, il fait la route jusqu'à un niveau, peut-être c'est un pont qui vous sépare. Il fait un peu, mais le Togo ne fait rien. Quand on quitte là, la population a parlé aussi des projets inachevés.
Oui.
J'en veux pour un exemple, le barrage de Yengyan, qui était en construction de tout le temps de Nyasimbe Père. Malheureusement, c'est resté comme ça. On a chassé la population, le bien s'installe, mais rien du tout, alors que ça, le barrage devait être à l'image de celui de Kopiango au Burkina, qui est un pays sahélien. Voilà encore un exemple.
Merci
maintenant,
beaucoup.
Maintenant, qu'on prend en termes de population, des fois on ignore quelque chose. La population de la savane représente la troisième population régionale. Après la maritime. Les plateaux, c'est la région des savanes. Mais les gens ne prennent pas conscience de ça. Donc il arrive des fois que des financements publics ne tiennent pas compte de cette réalité. Nous constituons la population des enfants, constitue la troisième population en termes régionaux au Togo. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez constaté, une fois j'ai réagi, quand on fait le partage des circonscriptions électorales, vous constatez que la région de la Cara, il y a plus d'édité à Kara qu'à Dapon. Ce qui n'est pas devait être réaliste. Donc voilà autant d'expliquer tout ce que Dapon. Et vous voyez, un projet qui peut-être, des projets qui sont identiques à toutes les régions, quand ça quitte Lomé, jusqu'à ce que ça n'arrive à Dapon, ça se dégrade.
Il y a de la déperdition en cours de chemin.
Ah oui.
Merci beaucoup.
Beaucoup de choses passent dans les. Vous comprenez mon langage.
Merci beaucoup. Les populations ont tout dit dans ce diagnostic d'IA. Merci beaucoup, cher ami. C'est très gentil avec ce témoignage qui conforte ce diagnostic établi par l'étude. Deuxième auditeur, bonjour. Allô, l'ami nous.
Allô.
Ah, oui, bonjour.
Bonjour, c'est Martin de Kadambara.
Martin de Kadambara, avec qui nous étions à ce côté il y a quelques jours.
Eh bien,
allez-y, l'ami Martin.
C'est hier que j'ai tenté pour répondre au directeur de l'enseignement catholique parce que j'avais une préoccupation. Mais malheureusement, la ligne était très occupée.
Oui. Eh bien, allez-y, il doit sûrement nous écouter.
Je sers dans l'enseignement catholique, j'ai eu le meilleur prix. Mais à la fin, j'ai été déçu parce que j'ai enseigné à l'Institut Assomption j'ai été découragé.
Et pourquoi?
Parce que jusqu'alors, mes salaires sont restés là-bas de 92 jusqu'à ce jour. J'ai mené toutes les démarches en vain.
Ah bon?
Le directeur de l'enseignement catholique qui m'avait agi n'est plus qui repose en paix. J'ai fait toutes les démarches, je n'ai pas eu gain de cause.
Martin, je vais essayer de vous mettre en contact avec le père Afognon. Le directeur de l'enseignement catholique, peut-être qu'il pourra accorder une attention
à votre
préoccupation. Merci beaucoup, Martin.
Que Dieu nous bénisse.
Je vous en prie, Martin Kadambara depuis Sokoré. Troisième auditeur. Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Bon, en fait, moi, j'aimerais plus parler de. Lors de vos débats, nous sommes des jeunes apprenants qui vous écoutent.
Oui, c'est monsieur, s'il vous plaît.
Monsieur.
Djobo. Ok, nous avons l'ami Djobo.
Lors de vos débats, vous utilisez certaines versions. Entre temps, on a appris qu'il ne se dit pas. Donc, peut-être on entend, mais j'aimerais, si possible, si en parlant, on peut corriger de.
Bien volontiers, nous apprenons au jour le jour. Un exemple?
Un exemple, topologie par exemple, quant à ce qui concerne, il y a beaucoup de ces expressions que j'entends souvent, qu'on nous a appris qu'il ne se dit pas en fait.
Merci. L'ami Djobo, qui est un puritain de la langue française. Toutes nos excuses pour ces fautes-là.
D'accord.
Si c'est avéré, hein. Mais ce qui nous importe, c'est le fond des sujets que nous abordons, comment nous allons corriger pour que le Togo soit réellement émergent. Merci, l'ami Djobo. Nous passons le témoin au suivant. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et c'est monsieur?
C'est monsieur Mautor, l'appareil.
Mautor.
Oui.
Le Messi. Je
vais réagir sur le sujet d'Apaon là.
Oui.
Et à chaque élection, il gagne là-bas. Ceux qui gouvernent le pays gagnent à d'abord. Parce que je ne comprends pas en fait cette facturation du Togo. Et si monsieur le journaliste il sort son film, c'est cela. Je ne comprends pas. Parce que si on se sent mal gouverné, on sanctionne. Mais à chaque élection, il gagne là-bas. Moi, je ne comprends pas.
Merci. On peut trouver ça comme un contraste que la zone la plus pauvre du Togo qui vient de s'exprimer. Par cet homme de préoccupation vote officiellement dans un sens. Mais Eric, tu nous parles aujourd'hui d'une étude que chacun devrait exploiter dans le sens qui lui sied.
Oui,
le micro.
Logiquement. Mais je voudrais dire à notre ami que c'est pas que le fait d'être région. Malheureusement, il y a des situations qui permettent aujourd'hui de dire que finalement les populations ont comme l'impression qu'elles sont délaissées. Et par conséquent, il faut essayer de corriger les choses. Et si nous devons parler des politiques, c'est pas uniquement dans la région des savanes qui ne font rien ou qui n'apportent pas grand chose. C'est dans presque toutes les régions, puisque toutes les régions du Togo souffrent également.
Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, l'ami en ligne. Oh, il n'est pas le retour. Ok, je rappelle que nous avons parlé de la 26e conférence du district de Zonta qui va s'ouvrir le jeudi prochain pour 3 jours. On a parlé de la semaine de la santé communautaire. Ce sera de 2 au 11 novembre prochain. Mais entre-temps, priorité à l'éditeur qui entre en ligne. Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, madame ou bien monsieur. Il n'a pas le retour. Bon, juste pour revenir sur ce que disait un auditeur. Ok, un auditeur qui entre en ligne, bonjour.
Bonjour, Saf Gaou.
Bonjour.
Bonjour, Canal FM.
C'est moi, Richard, depuis Copenhague.
Copenhague.
Depuis Copenhague.
Ok, Richard, nous écoutons.
Écoute-moi ce que la ministre de Samal. Je suis allé la dernière fois d'abord. Sincèrement, j'étais un peu chargé par rapport à ce qui se passe dans la préfecture de la Kouza. Parce que, à d'abord, tu verras que les choses tournent. Bon. Il faut pas aller au profond dans des villages reculés. Mais ça montre que à d'abord. Et puis, j'ai l'impression comme les ONG. Tous les ONG sont basés à Dapon. La plupart des ONG sont basés à Dapon. C'est ça, moi je suis fier des jeunes de la localité parce que je vois qu'ils font beaucoup d'efforts, ils travaillent. C'est difficile de voir un chômeur là-bas parce que tous les jeunes, ils ont quelque chose à faire.
L'ami Richard, il y a votre constat. Hein? Vous avez peut-être visité la région pendant quelques jours, alors que l'étude parle du ressenti des populations qui vivent là-bas au jour le jour, Richard.
Moi, je parle de mon sentiment, de le ressenti que j'ai. Parce que je suis allé, j'ai vu comment ça se passe.
Oui, mais vous avez seulement passé quelques jours, n'est-ce pas, Richard? C'était pendant vos vacances.
J'ai fréquenté un assemblée de par exemple. Mais aujourd'hui, le Dapon que j'ai connu dans le passé n'est plus le Dapon que j'ai connu aujourd'hui.
Ça fait des années.
Bon. Ça fait des années. Mais Dapon a tellement changé.
Bon,
en tout cas, merci. Hein, c'est ce que vous avez pu constater. Mais je vous rappelle, Richard, que l'étude parle de ce que les populations de la région ont déclaré elles-mêmes.
Oui, merci.
Je vous en prie, Richard. Alors, l'auditeur qui parlait tantôt de la population, effectivement, selon le dernier recensement, le RGPH 2022, la région des savanes compte effectivement 1 143 520 habitants et arrive en troisième position après le Grand Lomé et la région maritime. Non, et en quatrième position après le Grand Lomé, la région des plateaux. Et la région maritime, c'est les statistiques qu'on peut consulter un peu partout, les résultats du 5e recensement général de la population de l'habitat. Mais Eric, encore une fois, précision utile, l'article parle de cette étude, de ce diagnostic commandité par l'ANADEP. Et si nous en parlons, c'est que nous soyons tous nombreux à en prendre connaissance et à exploiter pour ne pas continuer à répéter les mêmes erreurs.
Oui, effectivement, parce que ça constitue la source de l'insécurité dans cette région. Vous savez qu'aujourd'hui, les premières autorités togolaises se battent contre l'insécurité dans la région. Et s'il y a des projets qui sont logiquement établis pour ces populations-là, et que ces projets-là n'aboutissent pas, vous imaginez comment tout de suite les groupes organisés, des terroristes et des djihadistes-là, peuvent rapidement coopter ces jeunes-là pour les utiliser dans ce qui crée l'insécurité. Et donc, vous savez, il y a une étude qui a été également faite par une ONG allemande que nous avons rendue publique il y a de cela 6 ou 8 mois et qui dit clairement que ces djihadistes-là viennent recruter dans la région. Si les jeunes ont quelque chose à faire, mais pourquoi alors suivre ces gens-là à la recherche du bien-être? Et voilà, des gens qui y vont, qui reviennent avec une moto en quelques semaines, mais ça excite les autres. Alors que s'ils travaillaient, eux, tout ça, ils peuvent économiser et acheter leur propre moto. Je crois que c'est une source d'insécurité lorsque ces projets-là sont annoncés et n'aboutissent pas. Et je crois que l'étude qui a été commanditée pour le projet Cohésion sociale doit nous ouvrir les yeux pour que nous tous qui allons mettre quelque chose dans cette région-là, comprenions qu'il faut véritablement faire les choses afin que la population puisse en bénéficier.
Ambroisine, cette étude vient conforter la PM. Dans sa dernière sortie, quand elle disait, je la cite, « Il n'y aura aucune tolérance pour les projets mal exécutés. » Et plus loin, elle disait que « Un travail qui est mal fait et qu'il faut reprendre demande encore plus de ressources et ce sont des ressources que nous perdons. » Donc l'étude là vient conforter la Première ministre. Il faut vraiment que nous changions de comportement à mieux gérer nos projets.
Tout à fait, mais il faut pas tout le temps. Quand il y a des études qui sont... commandité, il faut les résultats sont connus, il faut dégager les responsabilités, demander des comptes. On ne va pas tout le temps restructurer les projets. Non, il faut sanctionner parce que c'est ça qui amène la correction dans l'élaboration des projets et dans la bonne exécution aussi.
Merci Madame Trénaud, c'est vous qui clôturez cette émission. Bien sûr, vous êtes passé dans le cadre de la 26e conférence du 18 Zontaclop. Ce sera les jeudis, vendredi et samedi. Mais vous avez écouté également un débat. Vous avez une minute pour votre commentaire conclusion.
Oui, je voudrais dire que tout ce que nous faisons aussi procède de relever ces défis, tous ces défis contre la pauvreté qui génère toutes ces déviations, les luttes, le terrorisme et autres. Et il est plus que jamais nécessaire que chacun, à son petit niveau, mette la main à la pâte et s'engage résolument, hommes et femmes, dans son petit milieu local ou national ou international, à lutter avec les moyens à sa disposition pour obtenir l'égalité d'abord pour nous du Zonta genre, l'équité genre, ce que nous appelons l'équité genre, mais aussi pour aboutir à un monde meilleur pour les hommes et les femmes.
Merci. Je rappelle que le thème de votre conférence, c'est « Engager pour construire un monde meilleur pour les femmes et pour les filles ». En termes d'engagement, vous avez parlé de 3 exigences que vous faites votre dans l'engagement. Je voudrais que vous nous rappeliez. S'engager à donner un peu de son.
Un peu de son temps.
Un peu de son temps.
Un peu de soi-même.
Un peu de soi-même.
Et subsidiairement de son argent pour
aider les autres.
Et j'insiste, excusez-moi, monsieur Gao, si vous me donnez une minute. Les clubs services donnent toujours l'impression qu'il faut avoir de l'argent, que ce sont des gens qui possèdent des moyens qui peuvent rentrer dans ces clubs-là. Et nous faisons tout pour nous inscrire en faux. Parce que vous pensez bien que ce ne sont pas nos petits 10 000 francs que nous cotisons là qui permettent de faire tout ce que nous faisons. Le plaidoyer contre le harcèlement et les grossesses précoces et tout ce que nous réalisons comme projet. Et justement, ce qu'on nous demande avant tout, c'est de nous engager nous-mêmes, d'y mettre de notre personne, de faire jouer nos compétences dans notre milieu justement professionnel et autres. C'est ce qu'on nous demande avant tout. Et pour pouvoir réaliser
donner un peu de soi-même, donner un peu de son temps, un peu de son argent pour aider les autres. Comme ça, nous aurons un développement réellement inclusif et partagé.
Oui, c'est de l'altruisme.
Altruisme.
Oui. Alors moi, je vais mettre en même temps mon carton.
Ok, ton carton rapidement.
Le carton vert à toute l'équipe Savoir News pour le prix enlevé par l'agence le 23 septembre dernier à Dapaon, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Savane Motaog qui prône la paix et la cohésion sociale dans la région des Savanes. Chapeau à toute
le
l'équipe.
La presse s'associe à ce, à Savoir News pour
également
ce prix.
L'Union.
Hein. Eric, merci. L'Union aussi. Maintenant ton carton.
Alors. Ça, imaginons que nous n'arrivons plus à utiliser l'océan pour faire passer les marchandises.
C'est pas possible.
Non. Et donc, je donne un carton vert à ce symposium qui sera ouvert demain mercredi, justement pour les chefs d'état-major maritimes.
Des États de la CEDEAO,
du Golfe de Guinée, justement pour parler de la sécurité dans de l'économie maritime, l'économie bleue.
L'économie bleue.
Merci. Nous en parlions hier aussi. Bons travaux. Et les travaux ont commencé par les experts déjà depuis quelques jours.
Dimanche.
Et continuent toute la semaine. Madame, donnez-nous un carton vert, jaune ou rouge à quelqu'un, personne physique ou morale.
Bon, d'abord, quand même, remercier Canal FM pour nous avoir donné l'opportunité de marquer notre visibilité. Et carton vert, je pense à toutes les femmes de ce pays, quel que soit le niveau où elles interviennent, pour devenir, le bon devenir et le leadership de la femme. Parce que au Togo, il faut le dire, nous sommes un exemple, un grand exemple en Afrique, des femmes qui se battent, qui travaillent, qui n'attendent pas qu'on fasse pour elles, et carton vert à
toutes les femmes. Mais madame, ce que vous les femmes vous faites, c'est nous les hommes qui vous aidons à le faire, hein?
Non, non.
Si, si. Non.
Vous c'est savez, nous n'allons pas aller madame. Sur ce débat. Dans ce pays, ce sont les femmes. On connaît les
dossiers. Rendez-vous demain pas, mercredi à 11h. Nous allons prier que Dieu le veuille.